émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, les neuromythes suite. Avec Christophe Rodeau. Le 6 décembre 2017, avec notre invité Christophe Rodeau, nous avons fait une première émission sur les neuromythes, en particulier l'utilisation de notre cerveau à 10% de ses capacités et l'effet Mozart. Vous pouvez retrouver ces émissions sur notre site Judaïsme Pluriel. Malheureusement, les neuromythes sont nombreux et bien ancrés dans la tête des gens. Alors ce soir, nous parlerons d'autres neuromythes, et en particulier, cerveau droit, cerveau gauche, la bosse des maths, cerveau masculin et féminin, et en fin d'émission, le style d'apprentissage. Il est vrai que le grand développement des neurosciences a généré de nombreuses théories qui, à mesure du temps, et des apports de la connaissance sont remplacés par de nouvelles. Cependant, la fascination pour ces études a permis le développement de certains concepts prétendument rigoureux et scientifiques et véhiculés par l'aspect, je dirais, sensationnel de ces théories, sans le moindre fondement scientifique. Au point que l'OCDE proposa le terme de neuromythe pour désigner des convictions non vérifiées ou fausses sur le fonctionnement cérébral. Je vous rappelle que notre invité, Christophe Rodeau, est chercheur en neurosciences. Il est doctorant avec une thèse en préparation, presque finie d'ailleurs, sur la mémoire, et vulgarisateur de la connaissance scientifique. Il est rédacteur d'un blog « Cerveau en argot » et anime sur Radio Grenouille une chronique « La tête dans le cerveau » qu'on peut retrouver en podcast quand on veut. Christophe Rodeau était à ce micro le 24 mai et le 7 juin 2017 pour deux émissions sur la mémoire, sujet de sa thèse, et le 6 décembre 2017 pour la première émission sur les neuromythes. Vous pourrez retrouver toutes ces émissions sur notre site Judaïsme Pluriel. Bonsoir Christophe Rodeau et merci d'être avec nous ce soir pour cette deuxième émission.
Bonsoir Roland et merci de l'invitation.
Alors écoute, je te propose pour commencer de nous représenter ce qu'est un neuromythe.
Alors, un neuromythe, si on décompose le mot, est composé de, donc, d'une partie neuro et d'une autre partie mythe. C'est l'idée qu'on va avoir des fausses croyances, des fausses idées sur le fonctionnement du cerveau. Comme tu le précisais dans ton introduction, ces neuromythes, ces fausses croyances, ces fausses connaissances sur le fonctionnement du cerveau, elles peuvent avoir différentes origines. Ça peut être clairement des idées que le public a, qui est totalement faux, j'utilise que 10% de mon cerveau. Ça peut être des connaissances, ça peut être du savoir scientifique qui est mal compris, qui est mal interprété, et ça peut être aussi du savoir scientifique qui est détourné, qui est mauvais escient utilisé justement pour pouvoir essayer de vendre des techniques d'apprentissage, des techniques de concentration, d'attention. Voilà. Un neuromythe, c'est cette fausse croyance et ça peut avoir différentes origines.
Et justement, la genèse de ces neuromythes, c'est, tu viens de l'expliquer, c'est très important. Et si, si vous allez réécouter notre première émission, tu as vraiment beaucoup développé la genèse pour les 10% du cerveau et tu as montré comment les choses ont évolué. Et c'est vraiment très important.
Ah oui, mais un neuromythe, ça peut être comme n'importe quel mythe qu'on peut avoir de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, ça partirait d'une notion qui est plus ou moins vraie, et à partir de cette petite notion, de ce petit grain de sable, petit à petit, on va l'enrober, ça va faire une énorme boule, et c'est ce qu'on appelle un neuromythe, comme la plupart des mythes que l'on connaît.
Oui, et les... alors la question que je me posais, que je t'avais d'ailleurs posée, et que je te repose, c'est... lorsqu'un neuromythe apparaît comme ça, quelle est la position des vrais chercheurs ?
Alors, quand un neuromythe apparaît, alors c'est tout à fait possible qu'un neuromythe apparaisse, mais la plupart du temps, ce sont des croyances qui se dissipent dans la population, qui sont là en bruit de fond. Les chercheurs, lorsqu'ils s'intéressent à ces questions-là, vont avoir une approche qui va être vraiment scientifique. Le chercheur se doit d'être humble face à toutes les observations qu'il va faire. On observe certaines choses dans certains contextes et on peut en tirer certaines conclusions. Lorsqu'on est mis face à une croyance, ben, la démarche normale du chercheur, c'est de venir tester cette croyance. Effectivement, ce n'était pas scientifiquement fondé.
Mais voilà, l'idée est passée et elle est ancrée dans la tête des gens.
Eh oui, comme tu l'as dit, en fait, le gros souci, c'est souvent l'aspect sensationnel de la chose. Mmh. On est en train de nous vendre une idée qui est révolutionnaire, on est en train de nous vendre une idée qui est spectaculaire, et c'est beaucoup plus facile de faire passer cette idée, c'est très médiatisé, mais lorsque les chercheurs arrivent derrière et disent « Non, non, en fait, il n'y a rien qui démontre scientifiquement que cela est avéré ben, », c'est déjà trop tard, le bruit a été fait, et assez rarement, les médias ne vont reprendre ce démenti, cette déconstruction de cette fausse croyance.
De toute façon, c'est déjà dans la tête des gens.
C'est ça, le mal est fait.
Oui. Alors par contre, tu parlais d'une autre chose aussi, et bon, là, heureusement, c'est moins souvent, mais quelquefois, il y a des chercheurs qui ont essayé d'émettre une théorie qui s'aperçoivent peut-être qu'elle est fausse, mais ils sont allés trop loin et ils ne veulent plus la démentir.
Quand je disais que les chercheurs sont humbles, c'est la plupart des chercheurs. Il s'arrive, comme dans n'importe quelle profession, que certains chercheurs utilisent leur position pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir acquérir de la notoriété. Et comme dans n'importe quelle profession, il y arrive qu'il y ait des charlatans. Des charlatans qui, avec ou sans bonne volonté, vont émettre certaines théories, essayer de les prouver. Et on va se rendre compte que tout ça est faux. Et je pense que peut-être tu penses à la théorie de ce qu'on appelle la mémoire de l'eau,
oui,
à la base de l'homéopathie. Mmh. C'est un chercheur qui était confiant dans sa méthode, dans ce qu'il montrait. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, si on revient un petit peu sur l'histoire, ça a été publié, cette découverte scientifique, ces travaux scientifiques ont été publiés dans la grande revue scientifique qui s'appelle Nature. L'une des deux plus grandes revues scientifiques au monde.
Sérieuse, très sérieuse.
Sauf qu'en fait, c'était un pur coup marketing de cette revue-là. Ah. Parce que dans le même numéro où était publiée cette fameuse recherche sur la mémoire de l'eau, il y avait un autre article qui démentait cette mémoire de l'eau.
Ah bon ?
Eh oui, un coup marketing.
Ah oui.
Voilà. Sauf que dans la tête des gens, ben, on avait montré scientifiquement qu'il y aurait une base scientifique à cette mémoire de l'eau, même si d'autres études derrière ont montré que ben, ça n'a jamais pu être répliqué dans d'autres laboratoires par d'autres chercheurs.
Bien, écoute, on va faire une pause musicale, mais comme d'habitude, c'est toi qui choisis les pauses musicales et en général, elles collent tout à fait à ce dont on parle. Alors, on va tout de suite écouter cette première pause musicale et puis tu vas nous en dire quelques mots après. Si on veut bien nous passer la première pause musicale, merci, coucou. Bon, je vois qu'on met un petit peu de temps. Il y a un problème ?
Les aléas du direct ?
Oui, les aléas du direct. Ça va marcher ?
Oh, I've been hurt and baby, I'm down on all. swung left, right, left, right, left. I said, times are changing. Tell me, how can I keep up? Every time I turn around, there's a wall. But I'm climbing daily until I see the top. And I get up right after every fall. When you're broken hearted and your love's so happy, yeah, you gotta walk alone, yeah, it's true. Flashing empty smiles, I've been lost for miles. Yeah, I know you felt this way before too. We're almost there, baby, one more step.
Voilà, alors nous vous retrouvons avec Christophe Rodeau pour parler de Neuromyth. Et comme d'habitude, tu as choisi donc Left, Right, Left. Alors pourquoi ?
Gauche, droite, gauche. Voilà. C'est pour parler d'un Neuromyth qui est assez connu, qui est très médiatisé. C'est l'idée que chaque personne est soit cerveau droit, soit cerveau gauche. Qu'on aurait une espèce de... Notre personnalité dépendrait en fait de l'activité d'une des deux parties de notre cerveau. Alors soit on est quelqu'un qui est très mathématique, très rigoureux, très scientifique, et là ça serait notre hémisphère gauche qui serait dominant dans le fonctionnement de notre cerveau, ou à l'inverse, on serait quelqu'un qui serait très créatif, très musical, très expressif, et là ça serait notre cerveau droit qui serait notre hémisphère droit qui serait dominant sur l'ensemble de notre cerveau.
Vas-y. J'ai une question.
Oui.
On ne peut pas nier le fait qu'il y a des gens qui sont doués en mathématiques.
Oui, ah non, mais je...
On ne peut pas nier le fait qu'il y a des gens qui sont doués dans l'expression artistique. Bon, alors après, de passer de ça à dire l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche est dominant, ça c'est une autre histoire, je te pose la question.
Alors oui, évidemment, c'est évident qu'il y a des personnes qui sont très douées en musique, qui sont très douées en peinture, des personnes qui sont très douées en mathématiques, mais après la question qu'il faut se poser c'est est-ce que ces personnes-là vont avoir une activité plus importante de leur hémisphère droit ou de leur hémisphère gauche ? Ce qui est intéressant, c'est peut-être de remonter à l'origine. Je disais que comme tous les mythes, la plupart du temps, ça se base sur une origine bien précise. Et là, ça se base sur des études qui ont été faites il y a quelques temps. C'est des études qui ont été faites sur des patients très précis, des patients qui souffrent d'épilepsie. Tu vois l'épilepsie ?
Oui, oui. Donc, c'est les neurones qui se mettent à travailler tous ensemble.
C'est ça. C'est l'idée que, alors, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a différents types d'épilepsie, mais certains types d'épilepsie, on va avoir certains neurones qui vont commencer à tous se synchroniser, et cette population de neurones très précise dans un endroit très particulier du cerveau, cette synchronisation va s'étendre à l'ensemble du cerveau. C'est la crise épileptique. Il s'avère que chez certains patients, cette crise épileptique peut partir d'un hémisphère très précis, l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Pendant un certain temps, même si c'est quasiment plus pratiqué maintenant, ce qu'on faisait pour que la crise d'épilepsie ne se propage pas à l'ensemble du cerveau, c'est-à-dire lorsqu'elle part de l'hémisphère gauche pour pas qu'elle se propage à l'ensemble de l'hémisphère gauche puis à l'hémisphère droit, on faisait ce qu'on appelle une dissection du corps calleux. Le corps calleux, ce sont les fibres nerveuses qui relient l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. C'est ce qui leur permet à ces deux hémisphères. C'est ça, c'est le réseau de connexion entre les deux. Si on coupe ce réseau de connexion, ben on s'aperçoit que lorsque la crise d'épilepsie démarre d'un hémisphère, ben elle va pas se propager à l'autre hémisphère. Et ça permet de diminuer l'importance de ces crises épileptiques. Ce qu'on observait chez ces patients-là, c'est qu'effectivement, lorsqu'on avait certaines de ces crises d'épilepsie, on avait la démonstration de certains types de comportements. C'est-à-dire qu'on avait certains comportements, des mouvements de mains, qui pouvaient être ignorés par la personne qui était en train de le réaliser. C'est quelque chose qui est assez spectaculaire, et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que, effectivement, l'hémisphère droit aurait certaines fonctions spécifiques et l'hémisphère gauche aurait d'autres fonctions spécifiques. Mais là, tu le vois, pour pouvoir mettre en évidence ça, il faut qu'on soit venu chirurgicalement sectionner ton corps calleux. Oui. Ce qui n'est pas la majorité de ce qui arrive à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. On est bien d'accord, on a à peu près tous notre hémisphère, notre corps calleux qui est totalement intact, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'on ait ces différences qui soient aussi exacerbées. En réalité, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, on aurait des spécificités dans chacun de nos hémisphères. Mais ces spécificités sont quand même beaucoup plus précises, beaucoup plus nuancées que de dire hémisphère gauche, mathématique, hémisphère droit, qui serait créatif. En fait, on peut imaginer qu'une même région participerait par exemple à gauche et à droite au langage. À gauche, elle servirait plutôt au décodage du rythme, c'est-à-dire les séquences de mots qui vont avoir lieu les unes après les autres. Et de l'autre côté, ce qu'on décoderait, c'est pas tellement les mots et le rythme des mots, mais l'enveloppe musicale de notre phrase, l'intonation. Donc en fait, on n'aurait pas un côté qui serait mathématique et l'autre côté qui serait créatif, mais on aurait des légères différences dans le fonctionnement de notre cerveau. Là, c'est ce qui est montré scientifiquement. Après, de là à faire une généralisation et de dire qu'un type de personnalité peut être relié à une dominance hémisphérique, ben ça, c'est totalement infondé. Scientifiquement, on ne montre pas que les personnes qui sont mathématiques vont avoir leur hémisphère gauche qui est dominant, de même façon qu'on ne montre pas que les personnes créatives ont un hémisphère droit qui est dominant.
Alors, une question, lorsque c'est arrivé ce sectionnement des deux hémisphères, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un qui faisait des mathématiques et puis après il ne pouvait plus ? Ou alors il en faisait moins ? Ou on ne sait pas trop ça ?
C'est jamais allé aussi loin à ma connaissance. Ça va jamais aussi loin. En réalité, ce que l'on perturbe, c'est la communication entre ces deux hémisphères. Oui. Donc lorsqu'on va faire certaines tâches, cette communication n'étant plus vraiment effective, ça va perturber l'accomplissement de certains comportements.
Oui.
Mais c'est pas parce qu'on a coupé le corps calleux qu'une personne qui était très forte en mathématiques arrête d'être fort en mathématiques. On va jamais aussi loin. Même si, effectivement, c'est quand même une opération qui est assez importante. Et ça, il faut le dire. Mais ce que je trouve très important à souligner sur ce neuromythe, c'est que c'est un neuromythe qui est très populaire, qui est très largement diffusé et assez facilement, en ouvrant un bouquin de psychologie ou un livre qui serait là pour nous divertir, on tombera facilement sur un questionnaire qui nous permettra de déterminer si on est cerveau droit ou cerveau gauche.
Ah oui.
Et ça peut être à différents niveaux de crédibilité des magazines. Alors, ce sont des magazines de bas étage, mais on peut retrouver ça dans des magazines. Je ne sais pas si tu connais le docteur Simès.
J'ai entendu, oui, bien sûr.
Qui anime...
Michel.
Michel Simès, qui anime donc une émission sur France 5.
Oui,
il a sorti un magazine qui est bimestriel ou trimestriel, je ne sais plus. Mais dans le numéro d'avril, il y avait un questionnaire pour savoir si tu étais cerveau droit ou cerveau gauche.
Alors, je te dirais que en préparant cette émission, je me suis amusé moi-même à taper sur Internet... cerveau droit, cerveau gauche. Et je suis tombé sur une pléthore de sites qui parlaient de cerveau droit et de cerveau gauche. Je suis rentré dans l'un des sites et là, effectivement, on m'a dit « Monsieur, on va vous expliquer. Il faudra répondre à 10 questions. » Donc, j'ai répondu à 10 questions et après, on m'a dit « Vous êtes un homme formidable parce que vous sollicitez aussi bien votre cerveau droit que votre cerveau gauche.
» Alors, je te dirais que si c'est un site honnête... peu importe ce que tu vas répondre au questionnaire, ils doivent tout le temps te répondre
ça. Oui, j'ai pensé ça. J'avais pas le temps, mais sinon, j'aurais recommencé en mettant d'autres choses. Et je suppose que la conclusion aurait été la même.
Oui, parce qu'il n'y a aucun questionnaire possible qui permettrait de dire qu'un des deux hémisphères serait l'hémisphère dominant serait relié à un type de personnalité spécifique. Ça, c'est absolument non démontré. Mais ça n'empêche pas certaines stratégies, certains bouquins de management d'enseigner ce type de fausse croyance, de se baser sur cette fausse croyance. Et ça, c'est un petit peu plus problématique lorsque on te vend des magazines, lorsqu'on te vend des tests, lorsqu'on te vend des stratégies qui se basent sur une croyance scientifiquement infondée.
Alors le problème est le suivant, c'est que quand on est demandeur de ce genre de choses... Tu me disais tout à l'heure, il faut que tu ailles chercher si c'est un bon ou si c'est un mauvais, si il y a une réalité scientifique ou pas. Mais monsieur tout le monde aura du mal à essayer de chercher s'il y a des fondements scientifiques.
Alors je dirais que effectivement, on pourrait se dire que a priori, c'est quelque chose qui est très difficile pour monsieur tout le monde d'aller chercher le fondement scientifique d'une croyance, de quelque chose qu'on essaye de te vendre. Mais moi, je pense que, de manière générale, dans notre vie quotidienne, lorsqu'on va voir un médecin qu'on ne connaît pas, lorsqu'on va chez un carrossier, lorsqu'on va chez un mécanicien, on se renseigne un petit peu avant. Alors, effectivement, on se renseigne. On fait par le bouche à oreille.
Voilà.
Là, lorsque il nous est présenté une technique révolutionnaire qui nous permet de mieux apprendre, d'apprendre plus vite, de plus se connaître, de mieux se connaître, de se sentir plus épanoui, avant de mettre de l'argent, on va quand même essayer de questionner. Alors, il y a plein de gens qui pourront vous dire que ça marche, mais le plus simple, c'est d'aller questionner la véracité scientifique. Comment est-ce qu'on peut faire ça lorsqu'on est monsieur et madame tout le monde? Ben on peut parler à des scientifiques.
Oui.
Ouais, les scientifiques, ce sont des gens qui sont ouverts, qui sont prêts à dialoguer. Et vous avez la chance d'être dans un pays, la France, où la vulgarisation, la communication scientifique est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc, vous pouvez avoir autour de vous des manifestations scientifiques pour aller directement rencontrer ces scientifiques, leur poser des questions. Donc oui, pour moi, tester si... une méthode est scientifiquement prouvée, mais c'est aller chercher la référence scientifique. Et la référence scientifique, c'est peut-être pas remonter jusqu'à l'étude parce que je suis conscient que c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais aller questionner directement les scientifiques, ça c'est quelque chose qu'on peut tous faire, je pense.
Alors, cerveau droit, cerveau gauche, ça nous a amené à penser qu'il y a certaines fonctions qui se font plus... dans un cerveau et dans l'autre, et je veux pas. Et on a commencé vraiment à voir ce problème avec Broca.
Oui.
Voilà, alors parle-nous de...
Alors effectivement, il y a bien une différence à faire entre le fait de dire qu'on a un hémisphère qui est plus important, qui va avoir une activité plus importante, et donc ça va entraîner un type de personnalité spécifique, et le fait que, comme je l'ai dit, c'est scientifiquement démontré, il y a certaines régions cérébrales qui vont avoir un rôle un peu plus défini d'un côté du cerveau et une autre fonction de l'autre côté. Alors, ça ne veut pas dire que à gauche, ma région très précise me permet de jouer du piano et à droite, elle va me permettre de, je sais pas, savoir dessiner. Ce n'est pas des choses qui sont aussi opposées.
Oui.
Ce qu'on nous montre, c'est qu'effectivement, on va avoir le langage, par exemple.
Voilà.
Et d'un côté ou de l'autre, on va avoir une importance pour le décodage ou pas du langage. Tu me parles de Broca.
Voilà. Alors ça, c'est important de, ça, de voir que, par exemple, il a commencé à trouver ces choses-là à partir d'un cas oui. clinique.
Je vais te raconter le cas de Monsieur Tantan. Monsieur Tantan est un homme qui se présente un jour à l'hôpital et il a un gros souci. Il comprend tout à fait ce qu'on lui dit, mais la seule chose qu'il est capable de dire, bah, c'est cette, ce son « tant » qu'il répète souvent deux fois « tantant ». Paul Broca, qui est donc le médecin qui s'occupe de ce cas, est assez interloqué par ce cas très bizarre. Il comprend le langage, mais il lui est impossible de pouvoir produire ce langage. Malheureusement, il n'arrivera pas à soigner Monsieur Tantan, mais à sa mort, l'étude de son cerveau lui permettra de voir, d'identifier que chez ce Monsieur Tantan, une région très précise du cerveau était atteinte. On avait une zone morte dans son cerveau. Et c'est comme ça que Paul Broca a identifié ce que l'on appelle maintenant la région de Broca, région de Broca qui est très importante pour la production du langage. Et je vais même aller plus loin parce que il y avait un autre médecin qui a identifié une autre région qui est importante dans le langage. Cette autre région, c'est un autre médecin, Wernicke,
bien sûr,
qui l'a établi. Et cette fois-ci, Wernicke, lui, est tombé sur un patient qui avait des symptômes un petit peu inverses, c'est-à-dire qu'il était capable de produire du langage, mais il était impossible pour lui de comprendre le langage. Et c'est comme ça qu'on a pu établir maintenant une région de Broca qui est importante pour la production du langage et la région de Wernicke qui est importante pour la compréhension du langage. Les études de cas, c'est très fascinant parce que ça nous permet de voir, d'étudier ce qui ne fonctionne pas et d'en déduire que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'à la base, cette région très précise servait justement à faire fonctionner ce type de comportement. Et pour revenir et lier un petit peu cerveau droit, cerveau gauche, effectivement, cette lésion cérébrale, elle n'était pas des deux côtés du cerveau, elle était localisée d'un côté de l'hémisphère. Et c'est comme ça qu'on a pu établir que cette région très précise au niveau du cortex temporal n'avait pas tout à fait la même fonction si elle était à droite ou si elle était à gauche. Compréhension du langage ou compréhension de la musique du langage et des émotions qu'on veut véhiculer avec ce qu'on est en train de dire.
Et en fait, c'est les deux qui sont importants pour la communication.
Eh oui, on a besoin des deux pour pouvoir comprendre ce qu'on nous dit et comprendre un petit peu toute la musique qu'il y a autour, toute l'intonation que l'on met, les émotions que l'on met.
Tout à fait, tout à fait. Alors pour revenir encore, on va en terminer avec cette histoire de cerveau droit, cerveau gauche. J'ai lu aussi que dans l'Utah, donc aux États-Unis, il y avait eu une expérience de grande envergure. Ils ont pris des enfants de 7 à 29 ans, enfin des enfants, voilà. Oui. Et ils ont étudié avec une IRM les 7000 régions de chacun des enfants pour essayer de comprendre s'il y avait des différences ou non. Et là, la conclusion, ça a été que rien du tout. Il n'y a pas de cerveau droit. Enfin, il y a le cerveau droit et le cerveau gauche, mais il n'y a pas de prédominance de l'un par rapport à l'autre.
Non, et on en revient encore à ça. Il n'y a pas un hémisphère qui va venir dominer l'autre hémisphère et cette dominance ne serait pas liée à un type de personnalité précise.
Tout à fait. Eh bien, si tu veux bien, on va faire une deuxième pause musicale. Christophe Renaud, tu as choisi aussi ce morceau. Et ce morceau s'appelle
A Kaleidoscope of Mathematics.
C'est ça.
C'est un morceau qui est issu d'un film. C'est la bande originale d'un film qui s'appelle Un homme d'exception, dans lequel on écoute, on découvre la vie d'un mathématicien. Mathématicien, et pourquoi est-ce que j'ai lié ce morceau de mathématiques?
Sûrement qu'il y a une raison.
Ah oui, sûrement qu'il y a une raison. Et effectivement, je vais parler, si tu le veux bien,
oui,
de cette idée qu'on a tous, qu'on emploie tous, à avoir la bosse des mathématiques.
Attends, je cherche. Non, je n'ai pas un matos.
Avoir la bosse des mathématiques, pour ceux qui l'ignoraient, ce serait lié à l'idée qu'on pourrait avoir une bosse quelque part, et cette bosse serait reliée à nos aptitudes mathématiques. Ça paraît un petit peu fou, un petit peu saugrenu. Et pourtant, ça se base bien sur des travaux scientifiques.
Ah
oui, ça se base bien sur des travaux scientifiques. Ça se base sur des travaux scientifiques d'un certain Franz Josef Gall. Franz Josef Gall a une théorie. Sa théorie, elle est simple. Notre cerveau est sous notre crâne, il fonctionne, et certaines régions de notre cerveau jouent des rôles très précis dans certaines fonctions. Par exemple, les mathématiques. C'est ainsi qu'au niveau du cerveau, on a une zone qui est liée à nos aptitudes mathématiques. Pour lui, plus on va avoir des aptitudes importantes, plus notre faculté à comprendre, à faire des mathématiques est importante, et plus cette zone du cerveau va pousser sur notre crâne. Plus cette aptitude est importante, et plus elle va venir déformer l'os du crâne, et c'est comme ça qu'on peut ausculter les différentes bosses que l'on a sur le crâne et qu'on peut en déduire nos différentes performances, nos différentes facultés. Cette science, c'est ce qu'on appelle la phrénologie, la science des bosses qu'il y a à la surface du crâne.
Alors tu emploies le mot science.
Oui, c'est comme ça que lui l'employait.
D'accord.
Sauf qu'en réalité, cette phrénologie, c'est absolument faux. Ah voilà, c'est pas parce que tu vas avoir une bosse juste au-dessus de la tempe droite que ça veut dire que tu es très doué en musique. Toutes les personnes qui vont avoir cette bosse à cet endroit-là ne seront pas forcément douées en musique. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il avait essayé de mener un raisonnement scientifique en essayant de relier certaines bosses avec certaines aptitudes des personnes qui avaient ces bosses. Il avait créé tout un atlas. Hein. Mmh. On peut trouver ça sur Internet, et même il y a des représentations. Cette carte des bosses qui permettait de dire, en fonction d'où se situait la bosse, quelles étaient les facultés qui étaient développées. Sauf qu'en réalité, c'est pas scientifiquement lié.
Alors, il y a quand même quelque chose qui n'a rien à voir avec les bosses. C'est que on a pu démontrer, en particulier grâce à l'imagerie, à l'IRM, que, par exemple, pour un pianiste, la région des doigts est plus développée. C'est un exemple. Mais de là à dire qu'il va avoir une bosse, c'est autre chose.
Effectivement. Et c'est ça qui est à la fois paradoxal, parce que c'est faux, mais aussi très intéressant avec Gall et sa phrénologie, c'est que scientifiquement, c'est faux, cette idée qu'on va avoir des bosses qui sont liées à des facultés. Et pourtant, Franz Josef Gall avait raison sur quelque chose qui est fondamental. C'est l'idée qu'au niveau cérébral, on va avoir certaines régions qui jouent un rôle plus important dans une faculté. Alors ça, on l'a dit tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de l'aire de Broca, on a parlé de l'aire de Wernicke.
Oui.
Effectivement, certaines régions cérébrales jouent un rôle très important dans une fonction. Et ce qui est important aussi, et c'est ce dont tu viens de parler, lorsque on va développer une faculté très précise, parce que l'on appelle la plasticité cérébrale, il se peut que cette zone occupe une place plus grande, plus importante. Et c'est notamment le cas lorsqu'on s'intéresse aux musiciens qui vont avoir, notamment pour les musiciens, les violoncellistes,
oui,
les pianistes, qui utilisent beaucoup leurs doigts, vont avoir une représentation au niveau de leur cortex cérébral, de leurs doigts, qui va être plus importante.
Oui.
Mais plus importante, ça veut dire que, du coup, on va empiéter sur autre chose. on développe plus peut-être cette maniabilité, cette agilité des doigts, mais à l'inverse, on va empiéter sur d'autres régions cérébrales.
On va occuper notre place, bien sûr. Mmh. Alors, bon, on a bien développé le pour et le contre de ce monsieur Gall, mais il y a quand même quelque chose qui me paraît difficile. C'est qu'il a établi une carte à partir de laquelle on dit telle personne peut être un criminel ou telle personne peut être autre chose. Et ça, c'est très grave.
Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, à partir de cette carte et de cette idée de la phrénologie, après s'être intéressé à cette personne qui a cette bosse, à cet endroit très précis, est plus douée en mathématiques, est plus douée en réflexion, est plus douée en peinture, on est allé beaucoup plus loin en se disant ben, s'il est possible d'éditer une carte qui permet de dire qu'une région est liée à une faculté, ben, on va aller étudier des prisonniers, on va aller étudier des criminels, voir où sont situés leurs boss, et c'est comme ça qu'on pourra dire que lorsqu'on a une boss à cet endroit très précis, ben, on va être un criminel, on
potentiellement,
va être
un
potentiellement
criminel.
Un criminel, potentiellement un malfaiteur.
Oui, oui.
Et là, ça a clairement dérivé.
Oui.
Et ce qui a permis peut-être de mettre un petit peu le haut là-dessus, ben, c'est de revenir à cette méthode scientifique et en montrant que cette théorie n'était absolument pas scientifiquement fondée. On ne respectait pas cette démarche scientifique qu'il faut pouvoir respecter pour qu'une étude puisse répondre à des critères de science.
D'ailleurs, j'ai lu que dès 1825, c'est-à-dire 15 ans après l'établissement de cette théorie, de cette carte, on commençait déjà à démonter la théorie.
Eh oui, oui, très rapidement, on a commencé à démonter cette théorie. Parce qu'on s'est rendu compte que Gall, dans sa façon d'établir cette carte, avait des énormes biais méthodologiques. La façon de relier les différentes personnes à leur faculté, au boss, le nombre de personnes auxquelles il s'intéressait, tout ça, ça a pu être démonté très très rapidement. Et pourtant, ben, c'est resté. Et on l'emploie toujours dans le langage quotidien, cette bosse des mathématiques.
Autre chose à rajouter si...
Je ne pense pas.
Alors, si François veut bien, on va passer une nouvelle pause musicale. Merci François. Et voilà notre troisième pause musicale terminée. Et bien sûr, tu vas nous dire pourquoi qu'est-ce que c'est et pourquoi tu as choisi ça.
Alors, ce titre, c'est du groupe Blur. Oui. Et c'est Boys and Girls. Mmh. Parce qu'on va parler maintenant des différences qu'il y a entre les hommes et les femmes.
Différence au niveau du cerveau.
Oui, différence au niveau du cerveau et du fonctionnement cérébral. Et là, c'est une question qui est très complexe. C'est une question qui est assez complexe et il faut vraiment prendre des pincettes lorsqu'on s'intéresse à tout ça parce que, contrairement à tous les autres neuromythes qu'on a vus jusqu'à maintenant, la plupart du temps, on avait un neuromythe qui était parfaitement établi, qui disait « on utilise notre cerveau qu'à 10%, on va avoir la beauté mathématique, on va avoir le cerveau droit ou le cerveau gauche qui est lié à une personnalité. » Là, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a certaines personnes qui vont prétendre que le cerveau des hommes et le cerveau des femmes, c'est exactement la même chose, que ça fonctionne de la même façon. Et à l'opposé, on va avoir des personnes qui vont nous dire que le cerveau des hommes et des femmes, ce sont des cerveaux qui sont totalement différents, qui vont avoir des fonctionnements qui sont totalement différents. Et la réalité, ben c'est que c'est ni l'un ni l'autre, on ne tombe jamais d'un des deux côtés des extrêmes. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que, tu me l'accorderas, un homme et une femme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un homme et une femme, de base, génétiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un homme va avoir comme chromosome sexuel X et Y, oui. Et la femme va avoir comme chromosome X et X. Le fait d'avoir cette différence de chromosomes va faire que l'homme va pouvoir libérer une hormone qui s'appelle la testostérone. Testostérone qui va jouer sur pas mal de mécanismes et qui va pouvoir plus ou moins impacter la maturation, le fonctionnement cérébral. Et de l'autre côté, la femme et ses œstrogènes vont avoir là aussi des actions qui physiologiquement vont avoir certaines particularités. Ces particularités qu'on retrouve au niveau de l'organisme, on peut les retrouver au niveau du cerveau. Et c'est là qu'on va pouvoir distinguer certaines différences. Et c'est là qu'on tombe tout de suite dans un écueil qui est assez délicat. Génétiquement, effectivement, on a bien des différences. Ces différences peuvent entraîner des fonctionnements cérébraux différents. Sauf que le cerveau, ce n'est pas un organe comme les autres, c'est un organe qui est en interaction avec la société, l'environnement dans lequel on vit. Et on sait que en fonction de l'environnement et des expériences que tu vas vivre, ça va avoir un impact sur le fonctionnement cérébral. Certes, il semblerait que le cerveau des hommes et des femmes ne soit pas tout à fait la même chose, mais est-ce que c'est parce qu'on est codé de manière différente et qu'on va développer un fonctionnement différent, ou est-ce que c'est parce que chacun des deux sexes sont traités différemment par la société que ça va avoir un impact sur le fonctionnement cérébral? Ce que je suis en train de dire ici, c'est que on n'a pas deux cerveaux qui sont totalement identiques entre les hommes et les femmes, et on n'a pas des cerveaux qui sont totalement différents entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose qui va être à mi-chemin entre les deux. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que chaque fois qu'on va mettre en évidence des similarités ou en évidence des différences, toutes ces études vont s'intéresser à des moyennes. On va s'intéresser à des groupes d'individus. Des groupes de femmes qu'on compare à des groupes d'hommes. Et c'est comme ça que, lorsqu'on compare, on peut se dire que la taille du cerveau chez les hommes et chez les femmes n'est pas tout à fait la même en moyenne. On peut s'intéresser à d'autres tâches, à d'autres expériences, à faire d'autres exercices. Et selon les exercices, les tâches expérimentales que l'on va demander, on n'aura pas tout à fait les mêmes résultats en moyenne si on est un homme ou si on est une femme. Ces différences au niveau du cerveau, certes, il existe des différences entre les hommes et les femmes, mais ces différences, elles s'observent surtout lorsqu'on s'intéresse à des groupes de femmes et à des groupes d'hommes. Mmh. Si on s'intéresse à deux individus, mais là, ça va être très compliqué.
C'est pas significatif.
C'est pas significatif et c'est beaucoup plus complexe. Si je te montre les résultats d'un seul individu lorsqu'on va faire certaines tâches, lorsqu'on va s'intéresser au poids de son cerveau, ben, il n'est pas forcément aisé de dire si c'est un homme ou une femme. D'accord. Donc, à la question, est-ce que les hommes et les femmes ont des cerveaux différents ? Ben, c'est oui et non. Ça dépend à quelle hauteur on se place. En moyenne, les hommes et les femmes ont des cerveaux différents, ont des fonctionnements différents. D'où est-ce que ça vient, génétique ou environnement ? C'est très compliqué. C'est vraisemblablement un mélange des deux. Mais si on s'intéresse à l'individu lui-même, comparer un individu à un autre, déjà, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on ne va pas observer de grandes différences. Et c'est comme ça que, par exemple, on pourrait avoir un homme pris seul qui pourrait avoir des résultats qui sont très proches d'un groupe de femmes, ou on pourrait avoir une femme qui pourrait avoir des résultats très proches d'un homme à l'échelle de l'individu. Tout ça, ça n'a pas vraiment une réelle significativité.
Je comprends. Mais alors, la question que je me pose, c'est même quand on va travailler sur des groupes, et même des groupes importants, on va essayer d'établir des différences. À partir de quels critères, avec quelle méthode, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, est-ce qu'on va parler d'imagerie médicale? Est-ce qu'on va parler de réactions physiques ou psychiques, ou je ne sais pas? Comment on compare les choses?
Tu peux comparer sur énormément de points. Tu peux comparer ne serait-ce que sur la taille du cerveau.
Bon, ça, voilà. C'est facile.
Là, on récupère des cerveaux d'hommes et de femmes après leur mort, on les pèse et on voit ce qui se passe.
Exactement, on les pèse, on voit le volume.
C'est
voilà.
Ça. Tu peux comparer aussi en fonction de certaines pathologies. Eh oui, parce qu'il y a certaines pathologies qui arrivent plus souvent chez les hommes que chez les femmes.
Ah oui, exact.
Par exemple, l'autisme.
Oui.
L'autisme qui impacte, qui est ce qu'on appelle l'autisme, c'est plus le syndrome du trouble autistique. C'est beaucoup plus large, c'est pas une seule pathologie. Ben on s'aperçoit qu'il y a plus d'autistes hommes que d'autistes femmes. Ça touche préférentiellement les hommes. Tu peux aussi le comparer lorsque tu vas faire, je ne sais pas, un exercice de mathématiques. Ça, c'est très intéressant.
Alors,
si tu fais faire un exercice de mathématiques, okay, tu dis que c'est un exercice de géométrie, et tu dis que, de manière générale, les femmes réussissent moins bien ce type d'exercice. Tu peux le dire. Alors, il y a deux variantes. Soit tu peux dire « les femmes réussissent moins bien ce type d'exercice que les hommes », et là, tu vas voir que c'est effectivement le résultat que tu vas trouver. Si tu ne le dis pas, tu ne spécifies pas que c'est un exercice de mathématiques, tu ne spécifies pas que les hommes réussissent mieux que les femmes, mais là, tu n'auras pas de différence.
C'est un déterminisme, ça.
Ça montre à quel point l'environnement, le contexte social peut avoir une emprise sur les compétences, les performances qu'on va être capable de réaliser. Exercice mathématique, tu dis que c'est un exercice de géométrie ou tu dis que c'est un exercice de dessin. Si à un groupe de filles, tu dis que c'est un exercice de géométrie parce qu'elles ont l'habitude de savoir que les femmes réussissent moins bien en sciences, que l'environnement a cette forte pression sur elles, elles vont moins bien réussir. Le même exercice, mais cette fois-ci, tu dis bah, que ce n'est pas un exercice de géométrie, comme je viens de te le dire, que c'est un exercice de dessin. Il n'y a pas cette pression qui est liée au sexe, et là, elles vont très bien réussir ces exercices.
Il faut dire aussi que le contexte social joue un rôle énorme, parce qu'on peut constater aujourd'hui que ce qui n'existait pas avant, que un grand nombre de femmes deviennent des chercheuses renommées, chercheurs renommées, qu'elles deviennent des chefs d'entreprise, etc., etc. À l'époque, on disait qu'elles n'étaient pas capables de faire ça.
Ah oui, mais tu peux même remonter, enfin, cette différence homme-femme, on peut aussi voir des différences d'ethnie. L'esclavage, c'est il n'y a encore pas très longtemps. Hein. L'idée que lorsqu'on était d'origine africaine, on avait des performances intellectuelles qui étaient moins importantes, c'est encore il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, tout ça, ce que ça montre, c'est qu'effectivement, on peut arriver à mesurer des différences, mais c'est l'environnement, le contexte social qui peut modifier le fonctionnement cérébral. Et lorsqu'on est soumis à ces stéréotypes, ça peut clairement engendrer des biais, ça peut engendrer des modifications, ça peut engendrer des baisses de performance.
Bien, et en tout cas, la conclusion, c'est que s'il y a des différences entre cerveau de femme et cerveau d'homme, elles ne sont pas significatives au niveau des performances. Enfin,
alors, c'est significatif lorsqu'on s'intéresse à des groupes, lorsqu'on s'intéresse à des individus, ça ne veut plus trop rien dire.
Oui.
Donc, il n'y a pas des cerveaux qui sont totalement identiques, il n'y a pas des cerveaux qui sont totalement différents, ça dépend de quoi on parle, et il faut bien rester dans ce cadre très précis de l'expérience scientifique et de ce qu'on a mesuré.
Alors, il nous reste 6 minutes. Il faut peut-être aller sur le dernier chapitre.
Oui, qui est totalement en lien, en fait, avec ce qu'on va dire.
Alors,
ce qu'on vient de dire, c'est l'idée que tout ce qu'on va pouvoir démontrer scientifiquement, on le démontre dans un contexte très précis. Et là, on va parler d'un dernier neuromythe, un dernier neuromythe qui nous touche tous, et je le laisse aussi en dernier, parce que c'est sûrement celui qui est peut-être va apparaître le plus polémique, qui va faire le plus discuter, voilà. comme on peut dire.
Encore qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin, on y va.
Mais chez tes auditeurs, tu vois, ça ouvre à la réflexion. C'est l'idée que l'on a tous une mémoire préférentielle. On est soit mémoire visuelle, soit mémoire auditive, soit une mémoire que l'on appelle kinesthésique, qui va être liée au mouvement. Ça, c'est ce qu'on appelle les styles d'apprentissage. Alors, il y a plusieurs théories de styles d'apprentissage, plusieurs types de styles d'apprentissage, mais l'idée, c'est le suivant. Je peux passer un test qui me permet d'être catégorisé dans mon style d'apprentissage privilégié, qui est lié à une modalité sensorielle. Et si jamais on arrive à me présenter dans ma modalité préférée ce que je dois apprendre, je vais l'apprendre plus facilement.
Exact.
Je reste bien dans ce cadre précis, et dans ce cadre très précis, je peux te dire que scientifiquement, ce n'est absolument pas prouvé. Scientifiquement, on nous montre qu'il n'y a aucune preuve qui permet de dire qu'un individu peut être classé dans une de ses boîtes, dans une de ses classes, et lui présenter spécifiquement le savoir dans sa classe, dans sa modalité préférée, lui permet de mieux apprendre. Ça, scientifiquement, c'est pas prouvé.
Alors, quand on en parlait, je te disais que, effectivement, lorsqu'on parle de l'utilisation à 10% du cerveau, c'est quelque chose qu'on dit, mais l'expérience ne nous donne rien. Or, là, justement, l'expérience nous donne des informations. Il existe des gens qui te disent « Moi, j'ai une mémoire visuelle. Quand je vois quelque chose, je ne l'oublie plus. Et pour les autres, pour autre chose, non, j'ai une mémoire normale. Mais j'ai une mémoire visuelle. » D'autres parleront de mémoire auditive. Quand ils entendent un morceau de musique, quand ils entendent une voix, ils savent la reconnaître et de très longue date. Alors,
il y a plusieurs choses que je peux dire. Déjà, effectivement, tous nos sens ne sont pas sollicités de la même façon. Basiquement, nous sommes des primates, et en tant que primates, la vision, c'est quelque chose qui va être très important pour nous. Ceci étant dit, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on parle de mémoire, il y a plein d'autres choses autour de la mémoire. On va avoir la concentration, on va avoir l'attention, on va avoir plein de facteurs qui vont pouvoir jouer. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qui est très importante dans ce que tu dis, c'est l'expérience personnelle. Effectivement, on est tous soumis à des expériences personnelles, on a tous notre ressenti sur le monde, la façon dont on l'appréhende, la façon dont on peut retenir certaines informations. Et si tu te rappelles, lorsqu'on avait parlé de mémoire, on avait déjà montré que, en fait, on n'était pas infaillible. Et la façon que l'on a de percevoir le monde, c'est pas une façon qui est totalement objective. C'est une façon qui est subjective et qui peut, par certains côtés, être faux. On peut avoir l'impression que si on nous présentait tout ce que l'on a à savoir via le visuel, on arriverait à tout retenir. Scientifiquement, lorsqu'on fait des moyennes, lorsqu'on essaye d'établir si on a une modalité sensorielle privilégiée et lier ça à l'apprentissage, on voit qu'il y a aucune significativité. Déjà, un test qui va te permettre de te dire si tu es visuel, auditif ou kinesthésique, et ça sûr à 100%, il y a vraisemblablement aucun test qui soit scientifiquement prouvé, et le lien entre ta classe d'apprentissage et le fait que tu arrives à apprendre mieux grâce à cette classe, là aussi, c'est pas scientifiquement prouvé. Le vécu personnel est souvent trompeur. Et je te le disais tout à l'heure lorsqu'on préparait cette émission, si je regarde ce qu'il se passe dans le ciel, j'ai l'impression que le soleil tourne autour de la Terre.
Tout à fait.
Ça te montre bien que lorsqu'on s'intéresse à ce qui nous entoure et si on essaye de mieux le comprendre, le crible de ce qu'on appelle la méthode scientifique, observation, théorie, prédiction, expérience, et ça reboucle observation ensuite, ça nous permet de se détacher de notre vision subjective pour avoir une vision objective. On a une vision qui est limitée, biaisée, et en fait, grâce à cette démarche scientifique, on arrive à voir des choses qui sont totalement plus, je dirais, universelles, qui permettent d'un peu mieux définir le monde. Et je suis tout à fait d'accord que ça peut être très, très perturbant, parce que oui, on peut être persuadé d'être visuel.
Voilà.
Mais scientifiquement, c'est pas prouvé.
Bien, eh bien, Christophe Rodeau, je te remercie. On a bien bavardé, tu nous as appris bien des choses. Et puis on se retrouvera pour
avec
d'autres
plaisir,
émissions.
Avec plaisir.
Chers amis, bonsoir et à la semaine prochaine.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.